Radio Vatican, France et Afrique.
Amis auditeurs, bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme dont voici les principaux titres. Le Saint-Père a adressé mardi un message vidéo à l'occasion de la 16e édition du Forum GlobeSec Bratislava. Nous en parlons tout à l'heure en actualité de l'Église avant de nous enquérir des nouvelles de l'Église Famille des Dieux qui est au Kenya, au Nigeria, entre autres. Dans l'actualité sociopolitique sur le continent, nous évoquerons l'African Lion, le plus grand exercice annuel du commandement militaire américain pour l'Afrique, co-organisé par l'armée marocaine. Nous ferons ensuite le point sur la situation en Somalie, en République démocratique du Congo et au Sénégal notamment. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle édition de notre programme que nous émettons depuis la Cité du Vatican.
Radio Vatican, France et Afrique, Donatien Niembo.
Le Saint-Père a adressé mardi un message vidéo à l'occasion de la 16e édition du Forum GlobeSec Bratislava consacré au thème « Reconstruire le monde en mieux ». Dans ce message, le Saint-Père a proposé quelques idées en s'inspirant de la méthode trinomiale « voir, juger, agir ». Voir. Je vois donc un monde qui a été trempé par un sentiment illusoire de sécurité basé sur la soif de profit. Je vois un modèle de vie économique et sociale caractérisé par tant d'inégalités et d'égoïsme. Je vois un mode de vie qui ne prend pas suffisamment soin de l'environnement, a-t-il déclaré. Juger. La deuxième étape consiste à évaluer ce que nous avons vu. Juger ce que nous avons vu et expérimenter nous encourage à nous améliorer. Profitons de cette période pour faire des pas en avant, a poursuivi le Saint-Père. Agir. Ceux qui n'agissent pas gaspillent les opportunités offertes par la crise. Agir face à l'injustice sociale et à la marginalisation exige un modèle de développement qui place tout homme et tout l'homme au centre comme pilier fondamental à respecter et à protéger en adoptant une méthodologie qui inclut l'éthique de la solidarité et de la charité politique. Seulement, toute action a besoin d'une vision, globale et pleine d'espoir, a prévenu le Saint-Père. L'archevêque d'Abuja au Nigeria, Mgr Ignatius Kaigama, a mis en garde le gouvernement fédéral contre la suppression de voix des jeunes qui protestent contre la mauvaise gouvernance et l'insécurité dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Dans son homélie du dimanche 13 juin, Mgr Ignatius Kaigama a qualifié de raisonnables les demandes de jeunes qui ont participé aux manifestations du samedi 12 juin et a appelé à la retenue et à la créativité dans la gestion des manifestations. Le 12 juin, les jeunes du Nigeria ont marqué la journée annuelle de la démocratie par des manifestations de rue affirmant que la démocratie est menacée dans ce pays d'Afrique occidentale. Les manifestants ont cité des multiples cas d'insécurité, de mauvaise gouvernance et la récente interdiction de Twitter, entre autres problèmes qui semblent menacer la démocratie. Le 5 juin, les autorités nigérianes ont suspendu Twitter après que le fournisseur des services a supprimé un tweet du président Muhammadu Buhari, arguant que le président nigérian avait violé les conditions de service de Twitter. En réaction aux manifestations du 12 juin dans les rues du Nigeria, les agents de sécurité ont tiré des gaz lacrymogènes et arrêté une partie des jeunes qui participaient aux manifestations. Supprimer les voix des jeunes, a déclaré Mgr Kaigama, ou les faire fuir n'est pas une solution, mais répondre de manière positive et créative à leurs demandes raisonnables. Au Kenya, Michael Mutini Mutunga, le meurtrier présumé d'un prêtre tué en 2019 qui avait pris la fuite après avoir été libéré, a été de nouveau arrêté. Il était en fuite depuis un an. Mutini Mutunga a été libéré sous caution de 300 000 shillings kenyans par un tribunal d'Embu, mais ne s'est pas présenté à son audience. Les autorités avaient alors émis un mandat d'arrêt à son encontre. L'homme est accusé d'avoir enlevé puis tué le père Michael Maingi Kiengo, vicaire de Tata dans le diocèse de Machakos. Le prêtre avait été enlevé le 8 octobre 2019. Son corps avait été retrouvé enterré près des berges de la rivière Machamba à Makima dans le comté d'Embu. Les enquêteurs avaient immédiatement arrêté Mutini Mutunga, âgé de 25 ans à l'époque, qui avait pris possession du téléphone portable de la voiture et de la carte de crédit du prêtre disparu. Acculé, il a conduit la police à l'endroit où le corps du père Kiengo a été retrouvé. Le meurtrier aurait étranglé puis tranché la gorge du prêtre. Notre correspondante au Burkina Faso nous parle de la fin de l'assemblée plénière ordinaire des évêques du Burkina Faso et du Niger. Suivons.
L'assemblée plénière ordinaire des évêques de la conférence épiscopale Burkina-Niger du mois de juin est traditionnellement consacrée à la vie des commissions épiscopales. Et celle du 7 au 12 courant n'a pas dérogé à la règle. Les évêques ont écouté les rapports des 25 commissions épiscopales réparties en quatre groupes selon les quatre axes de leur plan stratégique. Ils ont ensuite pris des décisions en vue d'en améliorer le fonctionnement et procéder au renouvellement du mandat de certains secrétaires généraux ou à la nomination de nouveaux secrétaires. Toutefois, l'actualité nationale ayant précédé de peu cette session de juin avec le massacre de plus de 130 personnes à Solan dans le diocèse de Dori, et pas que ça à la période, a amené les évêques à s'apesantir sur la question sécuritaire sous-régionale. Les populations souffrent de plus en plus énormément de ces exactions terroristes. Les milliers de déplacés internes ne savent plus où donner de la tête avec l'installation progressive de la saison des pluies. D'où cette préoccupation des évêques qui, avec elles, se demandent à quand le bout du tunnel. Pour eux, en effet, la nuit d'horreur de Solan donne de constater que le spectre terroriste se fait de plus en plus menaçant alors que la plupart des populations victimes d'attaques terroristes sont à proximité des bases militaires nationales ou étrangères. À quoi servent alors ces bases militaires, se sont-ils interrogés. L'Assemblée des évêques s'est achevée par une messe à la cathédrale présidée par le nonce apostolique au Burkina Faso et au Niger aux intentions du Saint-Père, le pape François. Paul da Ouagadougou pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Tir de roquettes près du Sahara occidental, patrouille navale au large des îles espagnoles de Canaries ou chasse aérienne. Un grand exercice militaire conjoint piloté par les États-Unis donne lieu à une démonstration de force depuis son lancement au Maroc le 8 juin. African Lion, le plus grand exercice annuel du commandement militaire américain pour l'Afrique, co-organisé par l'armée marocaine, se déroule jusqu'au 18 juin avec des manœuvres terrestres, aéroports, aérienne, maritime et des décontaminations nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques (NRBC). Le premier ministre marocain Saad Eddine El Othmani avait affirmé depuis juin que l'exercice aurait lieu pour la première fois au Sahara occidental en se félicitant de la consécration de la reconnaissance américaine du Sahara marocain, mais son annonce avait été démentie par le Pentagone. Les premiers exercices avec saut en parachute de troupes aéroportées et tirs de roquettes se sont tenus dans le désert à la lisière du Sahara occidental à une cinquantaine de kilomètres à vol d'oiseau de Tindouf, la base des indépendantistes du Front Polisario en Algérie qui soutient leur cause. Au moins 15 personnes ont été tuées mardi matin dans un attentat suicide contre un centre d'entraînement de l'armée de la capitale somalienne Mogadiscio, a annoncé un officier présent sur place. Un kamikaze s'est fait exploser devant des recrues qui faisaient la queue devant le camp militaire général de Gobadan dans l'est de la ville, a déclaré Mohamed Adan, affirmant avoir compté une quinzaine de nouvelles recrues qui ont été tuées dans l'explosion. Par ailleurs, le Kenya va rouvrir son ambassade en Somalie dès que possible, ont annoncé lundi les autorités de Nairobi, répondant favorablement à une proposition de leurs voisins en vue d'une normalisation de relations diplomatiques entre les deux pays. Le ministre somalien des Affaires étrangères avait adressé ce week-end un courrier à son homologue kényan, l'invitant à rouvrir la représentation diplomatique kényane à Mogadiscio, fermée depuis décembre après la rupture par la Somalie des relations diplomatiques entre les deux États. Suivant cette décision unilatérale qui intervenait en réponse aux violations politiques récurrentes et hantées du Kenya contre sa souveraineté, l'ambassadeur kényan à Mogadiscio avait été expulsé et l'ambassadeur somalien à Nairobi rappelé. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, s'est rendu lundi auprès des déplacés de Goma qui lui ont demandé de l'aide après avoir fui l'éruption du volcan Nyiragongo le 22 mai. « Je suis venu consoler et me rendre compte de votre vécu », a lancé le chef de l'État devant des centaines de déplacés qui vivent dans l'école primaire Kaembe au nord de la ville. Le président a fait savoir qu'il avait demandé au génie militaire de construire des maisons et des écoles. Nous menons une vie difficile. J'espère que grâce à lui, nous allons retrouver nos logements comme il l'a promis, a déclaré Sekanobo Nyandui, une des déplacées.
Radio Vatican, Français Afrique, Donatien Nyembo.
Le président sénégalais Macky Sall a réclamé lundi des mesures urgentes après la mort par noyade d'au moins 8 jeunes au cours de la même journée sur quelques kilomètres de plage de la banlieue de Dakar. Les noyades sont fréquentes en cette période de première forte chaleur où les Sénégalais, à commencer par les jeunes, vont chercher un peu de fraîcheur dans l'Atlantique. Mais la mort d'au moins 8 d'entre eux en l'espace de quelques heures dans le même secteur est exceptionnelle. 5 corps ont été repêchés sur la place de Malika dimanche et 2 autres sur la plage contiguë des Gadaïe, a indiqué un responsable des pompiers. Une 8e depuis a été récupérée lundi tout près de là, a-t-il dit. Les victimes avaient une 20aine d'années. Les drames sont survenus dans des zones où la baignade est interdite en raison de la configuration de la mer. Le sable y est mouvant, mais les gens persistent à y aller, a-t-il déclaré. Un djihadiste algérien qui avait rejoint de groupes terroristes au Sahel s'est rendu aux autorités militaires algériennes à bord de Badji Mokhtar, ville frontalière du Mali, a annoncé lundi le ministre algérien de la Défense. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, le terroriste dénommé Hanouni Ahmed Di Ibrahim s'est rendu dimanche 13 juin aux autorités militaires à bord de Badji Mokhtar, a indiqué le ministère, précisant qu'il avait rallié en 2008 des groupes terroristes actifs dans la région du Sahel. Il avait en sa possession un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et des munitions. L'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, qui doit revenir jeudi en Côte d'Ivoire après 10 ans d'absence, sera accueilli au pavillon présidentiel à l'aéroport d'Abidjan, a annoncé lundi son parti, le Front Populaire Ivoirien FPI. Le président Alassane Ouattara a décidé de donner le pavillon présidentiel pour accueillir le président Laurent Gbagbo, a déclaré le secrétaire général du FPI, Assoua Adou, lors d'une conférence de presse. Il a saluer un message fort et remercier solennellement Alassane Ouattara pour ce geste en faveur de la réconciliation nationale. Laurent Gbagbo sera de retour dans son pays par un vol régulier en provenance de Bruxelles qui doit atterrir à 15h45 local à l'aéroport international d'Abidjan, a rappelé Assoua Adou. 12 peines de mort prononcées en Égypte contre des membres des Frères musulmans, dont 2 leaders de la confrérie islamiste, ont été confirmées par une cour égyptienne, a indiqué lundi un responsable judiciaire. La cour de cassation a également réduit les peines de mort de 31 autres membres de la confrérie ayant participé en 2013 à un sit-in islamiste au Caire où des centaines de personnes avaient été tuées par les forces de sécurité, à des peines de prison à perpétuité, a précisé ce responsable. Ce condamné à mort était accusé d'avoir armé des gangs criminels qui ont attaqué des résidents, résisté à la police et d'avoir été en possession d'armes à feu et de munitions, ainsi que de matériel pour la fabrication de bombes, peut-on lire dans le jugement de la cour. Les autres chefs d'accusation retenus incluent le meurtre de policiers, la résistance aux autorités et l'occupation et la destruction de biens publics selon le tribunal. Ces décisions de justice ne peuvent faire l'objet d'appel, a souligné le responsable judiciaire. Notre programme se poursuit avec le magazine sur la justice et la paix avec Marie-Josée Mwando Boabolo.
Notre magazine sur la justice et la paix nous conduit en Afrique de l'Ouest. La sous-région de l'Afrique occidentale est malheureusement en train de devenir le bastion du terrorisme en Afrique. Une situation qui devient de plus en plus préoccupante, écrit le père Donald Zagore, théologien ivoirien de la Société des Missions Africaines, exprimant toute sa préoccupation et son inquiétude pour la situation dans la région. Le conflit entre les forces gouvernementales et les groupes armés liés à ISIS et Al-Qaïda dans la partie occidentale du Sahel a dévasté une grande partie de la région au cours de la dernière décennie, déclenchant une importante crise humanitaire. Selon une étude récente dirigée par Catholic Relief Service au Mali, au Burkina Faso et au Niger, le chômage des jeunes et le manque d'opportunités économiques sont la principale cause de violence, poussant de nombreux jeunes à rejoindre les groupes armés. En Afrique de l'Ouest, une élite de 1% de la population possède plus de richesses que le reste de la population et les gouvernements ne font pas assez pour réduire les inégalités par des politiques telles que la fiscalité et les dépenses sociales. Près de 7000 personnes sont mortes à la suite de l'aggravation des combats l'année dernière selon les données du Armed Conflict and Location Event Data Project. Et selon les Nations Unies, la poursuite des violences a entraîné le déplacement interne de plus de 2 millions de personnes. Le père Zagore souligne que le nombre de personnes déplacées et de décès est en augmentation. Des populations entières vivant dans des conditions de précarité totale ne peuvent plus faire face, insistent les missionnaires. L'instabilité politique quasi permanente, la violation des valeurs démocratiques, la corruption à grande échelle, la pauvreté de plus en plus prononcée, la montée en puissance des cartels de la drogue et de l'or illégal qui contribuent largement au financement du terrorisme aggravent les conditions sociales, politiques et économiques dans cette partie du continent africain. Tant que nos États resteront prisonniers de tous ces maux sans jamais les combattre vigoureusement, leurs portes seront grandes ouvertes à toutes les formes de violence et au terrorisme par excellence. L'heure n'est plus aux discours et aux éternels sommets sur la lutte contre le terrorisme. Il est temps d'agir. Les gens ne doivent pas devenir prisonniers dans leur propre pays, dit le missionnaire. Parmi les autres incidents graves de violence enregistrés dimanche 13 juin, figure la mort d'au moins deux soldats et d'un gendarme tués par l'explosion d'un engin explosif dans leur véhicule dans la région de Téini, au nord-est de Côte d'Ivoire, près de la frontière avec le Burkina Faso. Selon des sources locales, l'explosion a également fait trois blessés moins d'une semaine après une attaque menée par des djihadistes présumés dans la ville de Tougbo, à quelques kilomètres de la frontière burkinabé. Le conflit dans la région du Sahel a provoqué l'une des plus grandes crises humanitaires au monde, avec 24 millions de personnes ayant besoin d'aide cette année et 13 millions souffrant de la faim, selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires. Avec ses vastes étendues de désert et ses frontières poreuses, le Sahel s'est révélé être un terrain fertile pour la montée du militantisme islamiste dans l'une des régions les plus pauvres du monde, tandis que le changement climatique a aggravé la concurrence pour des ressources qui s'amenuisent.
Écuménisme et dialogue interreligieux, c'est la rubrique que nous présente Françoise Niamien.
Le Conseil œcuménique des Églises accepte les dossiers de candidature pour les ateliers qui feront partie de l'espace du Brunel durant sa 11e assemblée qui se tiendra du 31 août au 8 septembre 2022 en Allemagne. Et c'est par là que nous débutons notre rubrique consacrée à l'écuménisme et au dialogue interreligieux. D'une durée de 90 minutes, les ateliers doivent permettre aux personnes participantes d'explorer un thème donné. Il est prévu 100 moments d'atelier pour 25 à 50 personnes. Le Conseil œcuménique accepte les dossiers de candidature des églises membres, des partenaires œcuméniques ou des réseaux du Conseil œcuménique. pour le père Johan Soka, secrétaire général intérimaire du Conseil œcuménique des Églises, les ateliers du Brunel constituent un élément essentiel de la 11e Assemblée. Ils encouragent le partage et la réflexion du point de vue de notre communauté fraternelle œcuménique, explique-t-il. Notre solidarité se renforce quand nous nous engageons à écouter et à apprendre ensemble. Le premier thème, spiritualité, célébrer et prier ensemble, offre un cadre œcuménique pour le partage de ressources et de réflexions sur notre façon de prier, de prêcher et de célébrer les sacrements dans un cheminement œcuménique vers la réconciliation et de l'unité. Le deuxième thème, formation, découvrir de nouvelles méthodes d'apprentissage œcuménique et interreligieux ensemble, est axé sur l'importance d'un enseignement innovant pour le dialogue et le mouvement œcuménique et explore divers aspects de l'éducation et de la formation, notamment le renforcement des capacités et de l'autonomie, indique le père Soka. Le troisième thème, mission et témoignage, développer la conscience communautaire et s'engager dans la réconciliation ensemble, traite de l'appel à vivre en disciple et met l'accent sur les expressions collectives du témoignage chrétien dans le monde. Le quatrième thème, justice et paix, affirmer la dignité humaine et lutter contre les inégalités ensemble, est consacré aux multiples luttes pour mettre fin à l'injustice, à l'exclusion et à la discrimination dans l'Église et la société, ainsi qu'à la justice sociale à l'ère numérique. Enfin, indique le père Soka, le cinquième thème, création, faire face à l'urgence climatique ensemble, met en évidence la nécessaire transformation économique et écologique des Églises et des sociétés. Toujours avec le Conseil œcuménique des Églises qui a créé un nouveau cadre photo pour lutter contre la peur et la désinformation concernant les vaccins anti-Covid avec des images et des motifs positifs et exacts. Une accolade entre une petite fille et son grand-père accompagné d'au moins de soucis grâce à la vaccination de ce dernier contre la Covid. Le cadre est conçu pour aider les personnes à utiliser leur influence et leur sens de la compassion afin de lutter contre la peur et la désinformation. Après le message lancé par 9 responsables d'église désignés pour être les champions de la vaccination pendant la semaine mondiale de la vaccination, le Conseil œcuménique des Églises a mis à disposition le nouveau cadre photo portant le slogan #VaccineWork, qui peut être utilisé sur les réseaux sociaux. Le cadre est disponible sur l'application mobile Facebook où il peut être téléchargé pour être associé à une photo existante à l'aide du logiciel d'édition de photos de votre choix. Dans une déclaration récente, le comité exécutif du Conseil œcuménique des Églises a reconnu que l'hésitation à la vaccination alimentée par les théories du complot, la désinformation et les théories religieuses erronées constituaient un problème dans de nombreuses sociétés, y compris au sein de ces églises. Parlons à présent de l'engagement œcuménique pour les familles démunies, une initiative de la solidarité œcuménique qui est en cours depuis quelques mois à Belinzone en Suisse. Dénommé Unaiuto per tutti, qui signifie en français une aide pour tous, le projet permet de collecter de la nourriture et des produits de première nécessité pour des familles précarisées par la pandémie et qui n'osent pas passer par les circuits d'aide officiels. Diverses organisations religieuses et civiles de la région de Belinzone sont impliquées dans la démarche, notamment les paroisses de Daro Artore et de la Collegiata de Belinzone.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
C'est la fin de cette édition de notre programme. Au nom de tout le service français Afrique de Radio Vatican, Donatien Nyembo vous dit merci de l'avoir suivi. À très bientôt.
Ma vie c'est le Christ et son évangile. Je veux être à lui, être son ami. Je lui donne ma vie
tout ce que je suis, car il m'a aimé et m'a racheté.
Ô Seigneur, accueille-moi, car tu es mon roi. Oh, quelle joie d'être toujours à toi. Ô Seigneur, accueille-moi, car tu es mon roi. Oh, quelle joie d'être toujours à toi.
Comme un bon berger, il m'a tant cherché et enfin trouvé. Je suis comblé, je veux le louer, je veux l'acclamer, partout annoncer qu'il est la vérité.
Ô Seigneur, accueille-moi, car tu es mon roi. Oh, quelle joie d'être toujours à toi. Ô Seigneur, accueille-moi, car tu es mon roi. Oh, quelle joie d'être toujours à toi. Oh, 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 oh,
accueille-moi, oh quelle joie d'être toujours à toi.
Seigneur, accueille-moi, oh quelle joie d'être toujours à toi.